Un rendez-vous mensuel aux couleurs européennes avec l'association Braise Europe Finistère, association d'éducation populaire qui décrypte l'Union européenne. Aujourd'hui, on retrouve Jocelyn Chesnel, le cofondateur et le porte-parole de Braise Europe Finistère. Il va revenir sur la question de l'élargissement de l'Union européenne et notamment l'élargissement aux États dits des Balkans occidentaux. Bonjour Jocelyn. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il est important de parler d'élargissement en ce moment ?
Bonjour. Effectivement, il nous a semblé important d'évoquer ce sujet qui n'est pourtant pas des plus glamour, si l'expression m'est permise en tout cas, notamment en France. Pourquoi ? Et pourquoi les États des Balkans occidentaux particulièrement ? Pour mémoire, cela représente 6 pays en tout. L'Albanie, qui a le statut de candidate à l'UE depuis 2020, la Bosnie-Herzégovine, dont le statut de candidate est à venir très prochainement, si on en croit les dernières déclarations de la Commission européenne, le Kosovo, qui ne dispose pas du statut de candidat pour de multiples motifs politiques difficiles à surmonter à l'heure à laquelle je m'exprime, la Macédoine du Nord, qui a le statut de candidate depuis 2020, le Monténégro, qui a le statut depuis 2012, et enfin la Serbie, qui a le statut depuis 2014. Pourquoi donc est-il important de parler d'élargissement ? Assez simplement parce que l'actualité de la guerre d'invasion menée par la Fédération de Russie en Ukraine a remis sur la table l'essence même du projet européen initial, à savoir celui d'arrimer à l'Union les États du continent désireux de paix et de prospérité.
C'est vrai que l'actualité à cet égard est terrible, mais alors Jocelyn Chesnel, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur l'historique et la logique qui avait guidé ces précédents élargissements ?
Oui, en fait, je pense même qu'on peut également rapidement revenir sur un événement de l'actualité récente pour évoquer la dynamique qui guide les différents élargissements, dont le dernier remonte, pour mémoire, à 2013, avec la Croatie, qui intégrera par ailleurs également la zone euro dès le 1er janvier 2023, c'est-à-dire très bientôt, in fine. Donc je parle bien sûr de l'annonce faite à Prague, en Tchéquie, le 6 octobre dernier, de la création d'une grande communauté politique européenne, conformément aux vœux formulés par le président français Mitterrand il y a plus de 3 décennies, alors qu'il avait souhaité, lui, une confédération politique. Et bien sûr, plus récemment, sous l'impulsion du président du Conseil italien d'il y a peu, Mario Draghi, et du président de la République française, Emmanuel Macron. L'enjeu, à défaut d'arrimer, comme je disais, les États tiers de l'UE tout de suite à cette dernière économiquement et juridiquement, eh bien le faire politiquement. L'enjeu, puisque nous avons des intérêts stratégiques militaires, énergétiques, politiques communs, eh bien c'est de permettre la création de l'entité qui permettra le dialogue à l'ensemble de ces égards, et en tout cas, peut-être un jour, adhérer à l'UE. C'est donc la logique de l'élargissement qui se poursuit avec la communauté politique européenne. Je préfère par ailleurs parler de complétion, et je vais bien entendu en expliquer les motifs. Complétion, en effet, plutôt qu'élargissement, parce qu'au terme des élargissements de 73, c'est-à-dire au Danemark, à l'Irlande, au Royaume-Uni, de 81 à la Grèce, de 86 à l'Espagne et au Portugal, de 95 à l'Autriche, la Finlande et la Suède, de 2004, Chypre, Estonie, Hongrie, Malte, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, gros élargissement 2004, mais encore 2007 avec la Bulgarie et la Roumanie et 2013 avec la Croatie. Donc au terme de tous ces élargissements qui nous ont fait parvenir peu à peu des 6 États fondateurs, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest en 58, donc qui ont fait passer de 26 à 28 avant de repasser à 27, après le retrait du Royaume-Uni du fait du Brexit, voté par référendum en juin 2016, eh bien l'idée a toujours été véritablement celle de construire ensemble un projet européen autour du marché commun et autour des idéaux de paix et de prospérité inatteignables dès lors que l'Union européenne n'était justement pas considérée complète. C'est ça l'idée du projet européen qui se construit depuis 57 et le traité de Rome, et plus encore depuis 92 et le traité de Maastricht qui a consacré non seulement l'Union européenne mais aussi la citoyenneté européenne. Et c'est justement, je termine là-dessus, c'est justement également cette idée qui a guidé la Commission européenne, mais aussi le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, quand ils se sont peu à peu prononcés en faveur du statut d'État candidat pour la Moldavie et pour l'Ukraine, récemment, jusqu'à juin dernier, pour des raisons liées au destin bien sûr éminemment européen de ces nations du vieux continent, raison plus prégnante encore au révélateur de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Justement, il est à appréhender combien c'est également cette logique qui doit encore guider les décideurs des 27 dans le cadre des volontés d'adhésion issues des Balkans occidentaux.
On comprend effectivement ce qui a guidé les Européens dans l'octroi du statut de candidate à la Moldavie et à l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il en est des États des Balkans occidentaux alors ? Où en sont-ils ?
Bien, pour l'expliquer, je crois que le retour sur l'histoire récente de la région peut être passionnant, puisqu'en effet, dans la région des Balkans occidentaux, le sentiment régional, c'est celui que ça patine en fait depuis un moment. Je m'explique. Alors que depuis le 1er janvier 1973 et le premier élargissement de la Communauté économique européenne, la CEE, l'ancêtre de l'UE, la question de l'élargissement est permanente au sein des institutions et des nations européennes. Elle n'a pourtant pas été posée, cette question de l'élargissement, tout de suite aux États des Balkans occidentaux, tous communistes, jusqu'aux premières déclarations d'indépendance, qui sont en fait récentes, puisque ce sont celles de la Slovénie et de la Croatie, en juin 91, c'est-à-dire il y a à peine plus de 30 ans. Et puis pour des raisons aussi, et même surtout, diront certains, liées aux guerres qui ont agité la région, guerres souvent sanglantes et douloureuses. Donc il s'agit de l'affirmer, lieu de conflit dont on a cru qu'ils étaient sans fin longtemps, les Balkans occidentaux ont longtemps été représentés justement à part du reste du vieux continent. Pour le comprendre, il suffit d'avoir à l'esprit non seulement la disparition d'anciennes entités frontalières, mais aussi la création de nouvelles structures étatiques post-effondrement des régimes communistes, mais encore les tensions économiques, les dynamiques identitaires, les nationalismes exacerbés, l'instabilité permanente bien sûr, en plus, effectivement, de la terreur des guerres successives dans la région. En fait, il y a une date charnière, c'est 89, si on en veut un repère. Puisque dès 1989, c'est-à-dire au lendemain de la chute du rideau de fer, la région des Balkans occidentaux, elle a notamment connu et traversé une série de conflits assez meurtriers, à l'exception notable de la Slovénie, où le phénomène de guerre a pris fin assez rapidement, puisque le cas slovène est même... particulièrement intéressant, au sens où, sans trop s'étendre non plus, la nation slovène était en fait devenue le premier pays anciennement communiste à prendre la présidence de l'Union Européenne, mais en outre le premier État membre de l'UE à adopter l'euro sans aucune période de transition. C'est dire combien la Slovénie était finalement prête depuis un moment, alors que l'Albanie, à titre de contre-illustration, mais qui n'est pas membre de l'UE, l'Albanie s'est d'abord orientée non pas vers l'Ouest, mais vers la République populaire de Chine, ce qui l'a à un moment condamné à un certain isolement vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest par ailleurs. La Serbie aussi, qui n'est pas non plus membre de l'Union Européenne, a pu opter pour des logiques similaires jusqu'à très récemment, puisqu'il est assez intéressant de constater combien la Serbie, justement, peut simultanément tenter de jouer dans le camp des Européens et dans celui des Russes, ses alliés historiques et culturels naturels, en dépit de la situation dramatique que l'on sait depuis le 24 février dernier, au risque de n'être clairement pas pris au sérieux à Bruxelles finalement. Donc maintenant, au-delà des Européens, au-delà des Chinois, au-delà des Russes, sans s'attarder là encore non plus, pour bien préciser la nature extrêmement stratégique de ce cœur européen géopolitique que représentent les Balkans occidentaux, mais il y a d'autres puissances qui tentent d'y jouer leurs partitions respectives, bien sûr les États-Unis, notamment au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, mais encore la Turquie, dans les mêmes pays, avec en plus l'Albanie. Donc s'il fallait être bref sur cette question, c'est que si d'aucuns continuent d'évoquer une région balkanisée, fragmentée, atomisée même, au risque de ne pas voir les efforts considérables qui ont été entrepris par les États de la région depuis plus de 30 ans, il s'agit en fait de souligner combien le monde lui-même s'est balkanisé, si on veut être tout à fait exact, ce que personne ne peut franchement nier, je crois, comme le démontre quotidiennement non seulement l'actualité, à l'est de notre Union européenne, mais bien sûr également l'actualité au cœur de l'Europe, c'est-à-dire dans la région des Balkans occidentaux. Et c'est ce nœud que ce qu'on a décidé d'appeler la complétion de l'Union européenne, justement via ces États enclavés, doit tenter de résoudre. Puisqu'aujourd'hui encerclés par les États membres de l'UE à leurs points cardinaux, mais aussi par l'État carrefour qu'est la Turquie au sud, eh bien la position géographique de la région, elle est effectivement un élément essentiel qu'il s'agit d'appréhender. Bref, c'est l'enjeu de la construction politique d'une UE puissance qui me paraît être mis sur la table. Et la question, c'est de savoir si on la souhaite ou non, cette UE puissance.
Mais au-delà de cette histoire effectivement très intéressante, qu'en est-il des avancées récentes en matière d'élargissement aux Balkans occidentaux ? Est-ce qu'il y en a même eu ?
Alors il y en a eu, mais avec quelle lenteur, puisque en octobre 2019, la France s'est même faite remarquer par le refus de son président de la République d'ouvrir la procédure d'adhésion à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. France, soucieuse d'ajourner le processus en amont. Le président Macron avait même eu la métaphore de la tartine, que je ne vais pas détailler, mais bref, l'idée c'était de réformer l'acquis communautaire, le pilier des critères hein, qu'on dit de Copenhague, adopté en 93 et qui institue les conditions d'accession à l'UE. C'est même sans doute la position la plus marquante de la période contemporaine, hein, cette hostilité française à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, puisque cette hostilité a été motivée au prétexte que l'approfondissement était préférable à l'élargissement. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en France depuis, j'allais dire, des décennies, puisque depuis des années, la France tient peu à peu ce discours, mais surtout des pays comme la Bulgarie bloquent hein, toute avancée vers l'élargissement, notamment à des pays comme la Macédoine du Nord, en se cachant derrière ce prétexte de l'approfondissement, parfois. Alors que les motifs sont souvent différents et d'ordre historique. Eh bien, chez Braise Europe Finistère, ce qu'on pense, c'est que ça n'est pas antinomique et qu'un approfondissement qui passe par une réforme profonde des traités avant tout nouvel élargissement, eh bien, c'est tout à fait souhaitable, justement, hein, pour reprendre d'ailleurs les propositions faites par la conférence sur l'avenir de l'Europe au mois de mai dernier. Donc, en fait, les processus d'adhésion et les exigences de l'UE ne suscitent plus aujourd'hui, c'est vrai, hein, l'enthousiasme populaire que ça suscitait au début des années 2000, puisque l'Union européenne et ses peuples ont sans doute été trop ébranlés hein, par les différentes crises économiques et politiques qu'on a tous traversées finalement récemment, en tout cas avant la guerre actuelle en Ukraine. Mais ce qu'il faut bien dire, en fait, c'est que des pays comme l'Albanie et la Macédoine du Nord ont fait beaucoup de réformes depuis 2018, notamment dans la justice, dans la police, ou encore dans leur rôle de ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire dans leur rôle de contrôleurs externes des frontières de l'Union européenne. Donc l'idée hein, qui nous anime dans la défense de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE, c'est vraiment que ces États soient reconnus comme candidats au début du processus, à l'instar de l'Ukraine, à l'instar de la Moldavie depuis juin dernier. C'est tout. C'est tout. Sans quoi ce sont des causes de souffrance vives pour les sociétés concernées. Tous le disent là-bas, et la diffusion vaste d'une vision selon laquelle l'UE ne tient pas ses promesses, ce qui est terrible, puisque cette vision se pose finalement à contrario de celle de la Chine, de la Turquie ou même de la Russie qui, elles, tiennent leur parole, en tout cas dans les Balkans occidentaux. Donc c'est un risque absolument majeur, un risque géopolitique qu'il paraît maintenant clair pour beaucoup de monde, urgent de prendre en considération afin de réunir les Européens. En gros, les promesses non tenues de l'Union n'en font pas un partenaire crédible dans la compétition avec les autres puissances dans la région, ce qui bien sûr affaiblit considérablement l'Union. En fait, l'Union européenne est extrêmement attractive partout et c'est ce dont il faut avoir conscience, je crois, puisque tous les États tiers du voisinage recherchent le statut de candidat à l'adhésion et sont prêts à produire les efforts afférents. On ne peut donc pas regarder ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on croit.
Mais alors, qu'est-ce qui justifie les nombreuses oppositions entendues ici et là en Europe contre l'élargissement aux Balkans occidentaux ou, comme vous dites, contre la complétion de l'Union européenne par les États des Balkans ?
Eh bien, il y a vraiment plusieurs motifs indiqués, hein, de l'impréparation des institutions politiques et judiciaires, par ailleurs, des pays en question, à la fragilité économique et commerciale de certains autres pays. C'est vrai que dès lors que l'UE entretient des relations, qu'on va dire multiformes, avec l'ensemble des pays de la région, ayant notamment développé une relation contractuelle fondée sur la signature d'accords de stabilisation et d'association, pour les hisser sur le chemin européen au lendemain de la guerre, hein, comme étape préalable à l'adhésion, eh bien, on demande des ajustements de nature économique, qui sont pas toujours faciles à obtenir, c'est vrai. Mais l'UE exerce aussi une influence conséquente de façon différente, notamment depuis février 2018, avec l'adoption d'une stratégie pour les Balkans occidentaux, qui est une stratégie en fait politique et diplomatique d'une part, économique et commerciale d'autre part. L'idée, en fait, elle est simple, c'est que si les préconisations de l'UE sont suivies dans la région, alors les pays obtiennent les aides et les subventions afférentes. Sinon, eh bien, la situation est gelée. De fait, l'Union européenne est donc, et de loin, la première contributrice des programmes de reconstruction de ces États des Balkans. Et voilà l'idée, mais je propose qu'on évoque aussi les sujets de la démographie et de la religion, qui sont d'autres motifs qui sont souvent entendus ici et là pour s'opposer à l'élargissement. Sur la démographie, par exemple, puisque d'aucuns ont avancé hein, pour motiver leur refus des futures adhésions à la région, l'élément démographique. En fait, c'est une interrogation que je trouve curieuse, car si le cas de la Turquie, par exemple, forte de ses plus de 80 millions d'habitants, pouvait nourrir hein, cette préoccupation assez légitimement, la question elle se pose pas vraiment hein, dans le cadre de l'intégration des États des Balkans occidentaux, puisque si on fait le total des populations de la région, 6 États, bah on peut les faire un par un, hein, ça fait 2 millions d'habitants en Slovénie environ, 4 millions en Croatie, 6 à 7 millions en Serbie, moins de 2 millions au Kosovo, 2 millions en Macédoine du Nord, 3 millions en Bosnie-Herzégovine, et enfin moins d'un million, c'est ouais, un peu plus de 500 000 habitants au Monténégro, 670 000 pour être exact, eh bien ça fait entre 18 et 20 millions d'habitants. Hein. Donc 19 millions d'habitants contre 23 millions en 89 par ailleurs. C'est donc dire l'inanité du propos. Puisqu'en 30 ans, juste pour l'illustrer, hein, l'illustration me paraît assez importante, les Croates ont perdu plus de 20% de leur population totale en 30 ans. Hein. C'est dire la déprime démographique dans la région. C'est donc pas un argument... complètement audible. Et puis je disais qu'il y avait aussi une question liée à la religion, puisque c'est en effet une inquiétude qui est parfois relevée, notamment dans les sociétés européennes traditionnellement catholiques ou orthodoxes. Donc on l'entend peu en France, mais on l'a entendu hein, à l'époque où la Turquie était toujours une candidate crédible. Parlons clairement en fait, hein, on parle d'islam. C'est donc la question de l'avenir européen d'États comme l'Albanie, comme la Bosnie-Herzégovine ou encore comme le Kosovo qui est posée. Parfois ça n'est même pas dit, mais on sent bien hein, que c'est le problème majeur pour les décideurs européens, même si l'islam de Bosnie-Herzégovine, il faut bien dire combien il est inoffensif, même si en chiffre absolu, si tant est que cela constitue un éventuel problème, eh bien le nombre d'individus musulmans représente en fait relativement peu de gens, et même si en Albanie, pour des raisons historiques, liées à l'histoire communiste laïque extrêmement sévère du pays, la déstructuration religieuse est quand même très développée. C'est donc... d'autant plus intéressant à traiter qu'il s'agit en fait d'un islam européen qui combine pluralité, démocratie, coexistence, partout où il est pratiqué, notamment en Bosnie-Herzégovine, où les entités politiques et judiciaires sont en fait des entités ethniques et confessionnelles. Donc, au regard des difficultés parfois ressenties hein, en Europe de l'Ouest vis-à-vis de la question, on a peut-être beaucoup à apprendre de ces nations, et si le slogan de l'UE finalement est « Unis dans la diversité », cela ne doit pas demeurer théorique, mais bien être mis en pratique, non ?
Jocelyn Chenel, vous avez évoqué les critères de Copenhague et le fameux acquis communautaire pour adhérer à l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les critères et comment est-ce que ça fonctionne ?
Rapidement, en fait, l'acquis communautaire, c'est une expression qui est consacrée hein, par le droit de l'Union européenne. Donc, c'est en fait l'acquis communautaire se compose d'une trentaine de chapitres qu'il convient de clore dans le cadre des négociations entre les États candidats à l'UE et l'UE elle-même. Donc, son objectif à cet acquis, il repose dans la nécessité pour les pays candidats de mettre en place les réformes nécessaires à la transposition du droit de l'Union dans le droit national avant toute adhésion effective. Tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est suffisamment difficile. Et puis les critères de Copenhague, critères applicables à tous les pays souhaitant adhérer à l'Union, eh bien ce sont, ils sont de différentes formes, hein. Ce sont des institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, des minorités et leur protection, bien sûr, une économie de marché viable, la capacité de faire face à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union et de son marché, la capacité d'assumer et de mettre en œuvre efficacement les obligations découlant de l'adhésion à l'UE, et notamment de souscrire aux objectifs de l'Union européenne, qui est une union politique, économique, monétaire.
Un mot de conclusion, Jocelyn ?
Bien sûr, c'est que si on ne peut, si on ne souhaite ou si on ne sait traiter de tout... malheureusement, en définitive, on espère avoir non pas convaincu du bien fondé des élargissements ou de la complétion de l'Union européenne, mais en tout cas fait toucher du doigt l'ambiguïté des vocations politiques dans la région, l'intensité des relations qui se font, qui se défont, et puis quelque part l'immensité finalement des défis qui demeurent, car s'il fallait résumer l'enjeu, je pense qu'il faut souligner combien il est en fait assez crucial hein, de lier bien davantage les États des Balkans occidentaux à l'Union européenne pour les sécuriser, eux, bien sûr, mais également pour nous sécuriser, nous, Européens. Puisque jusqu'ici, le processus d'adhésion Les processus d'adhésion, ils ont permis aux nations et à leurs citoyens de ne pas sombrer dans le pire, de se doter d'une perspective d'avenir. On peut penser à l'Espagne, à la Grèce ou au Portugal, qui sont quand même d'excellents exemples, eux qui avaient connu finalement peu de temps avant leurs adhésions, j'entends, hein, des dictatures terribles. Donc en fait, la perspective de l'adhésion de 6 États supplémentaires à l'Union, eh bien, elle fait pleinement partie de la contribution européenne, sinon à l'apaisement des tensions subsistantes, au moins, à minima, au renforcement de l'union démocratique et géopolitique. Si nous pensons, finalement, et je m'arrête là, qu'il faut soutenir l'adhésion des pays des Balkans occidentaux dans l'UE, c'est donc aussi, et enfin, parce qu'ils font partie, géographiquement, historiquement, culturellement, de notre Europe commune.
L'association Braise Europe Finistère que vous pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur son site internet.